Microclimat.
Microclimat.
Au Grand Palais, pour Radio Fréquence Paris Pluriel, Jeanne-Marie, on sort d'une conférence organisée par l'ONG Énergie 2050, qui intervient en France et dans une cinquantaine de pays à travers le monde, avec une approche de travail de façon pluridisciplinaire, de construire en fait des ponts entre différents secteurs de l'économie, les territoires, les villes, les campagnes, les espaces, les océans, les espaces côtiers, les océans. Ils ont, à Énergie 2050, accompagné 7 pays africains qui ont préparé leur contribution. Mais là, j'aimerais avoir quelques mots de François Bécher, directeur national de Environnement Initiative, et aussi d'Antoine Héron, président d'Innovation Citoyenne et Développement Durable, qui ont assisté comme moi à cette conférence, mais qui était donnée en anglais avec des diapositives.
Par Golo Pils, qui présentait dans le domaine des innovations technologiques la centrale solaire thermodynamique India One aux Indes, au Rajasthan.
Et qu'ils me donnent leurs sentiments sur ce qu'ils viennent de voir et puis qu'eux-mêmes parlent de leur projet. D'abord, Antoine Héron, vous-même, vous œuvrez en Inde, là où le projet que nous venons de voir, India One.
Non. Il se trouve que moi, je m'occupe d'innovation citoyenne pour le développement durable. C'est une histoire qui remonte à 7-8 ans. Je m'occupais d'innovation participative dans l'industrie, c'est montrer la capacité qu'ont les gens sur le terrain à apporter des solutions. Et quand les dirigeants n'ont pas trop d'idées, quelquefois les gens sur le terrain en ont. Et donc, quand j'ai pris conscience de l'ampleur des enjeux de développement durable, j'ai fondé l'association Innovation Citoyenne pour le Développement Durable, qui tente d'identifier des solutions que des citoyens mettent en œuvre dès aujourd'hui, des solutions simples, puissantes, efficaces, et qui interpellent nos dirigeants. Donc j'organise tous les ans les rencontres de l'innovation citoyenne pour rendre compte de ces percées qui se font ici et là. Je les rencontre sur Paris, en région parisienne. Je fais des conférences une fois par an sur Paris où je présente des activités pionnières de territoires ou d'entreprises ou de citoyens qui apportent des solutions alors qu'on leur avait rien demandé. Et donc, dans mes activités, j'ai été contacté par une étudiante qui revenait d'Inde et qui m'a fait connaître cette innovation particulière du projet India One. Et c'est comme ça que, comme j'étais en contact avec l'organisation Énergie 2050, je leur ai suggéré de venir présenter leur projet aujourd'hui. Parce que ce projet, ce qui me frappe, c'est que il réunit des capacités qui ont été élaborées de conceptions qui ont été élaborées en Allemagne, mais l'ensemble, le gros œuvre de toute l'installation est conçu pour être fabriqué sur place. Donc c'est vraiment de la technologie appropriée et ça participe complètement au développement autonome des populations du Sud. Et je trouvais c'est très important de mettre en avant ce projet.
Vous êtes d'accord avec ça, François Bécher, vous qui connaissez bien ce projet, puisqu'il a été en fait initié par l'université et le centre de recherche en Inde, dans le Rajasthan, c'est bien ça?
Tout à fait, Brahma Kumari. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, que pour mettre ce projet en place, Indian One, il y a 150 ouvriers qui ont été formés, ce sont devenus maintenant des techniciens. Et déjà, le projet n'a pas abouti. On va lancer la turbine dans 6 mois, 8 mois peut-être. Mais déjà, il y a des commandes des villes avoisinantes. Et on leur demande déjà d'alimenter un hôpital et une école dans une ville très proche. Ce qui veut dire que ces ouvriers, ces artisans, enfin, sont déjà prêts pour faire d'autres projets. Donc on voit que ça fait graine et là le projet va s'élargir en Inde. Oui.
Ce projet techniquement s'est implanté au Rajasthan, là où il y a une chaleur, comme disait Golo Pils, qui est l'ingénieur directeur de ce projet, qui en a d'ailleurs fait d'autres, vous nous en parlerez un petit peu plus tard, François. Il fait une chaleur là-bas similaire à ce qu'on trouve en sud de l'Espagne.
Oui, c'est ce qu'il a dit, mais je pense qu'il fait plus chaud encore. Moi, j'y vais régulièrement, une voire deux fois par an, dans le Rajasthan. Donc, c'est un des états les plus désertiques de l'Inde.
Combien de degrés à peu près? en journée chaude.
Ben, c'est-à-dire qu'en journée chaude, vous montez à 42, 45, oui. D'accord. Et il y a juste 2 mois, 3 mois par an, la saison pluvieuse, où il fait encore chaud, mais bon, il fait humide et là, le soleil ne marche plus puisque là, c'est très nuageux. Mais pour le reste du temps, le ciel est parfaitement clair, parfaitement clair.
Ouais. Et alors les 150 ouvriers dont vous parlez, qui ont été formés sur place, c'est une main-d'œuvre indienne, locale.
Absolument. Ah oui, locale. Oui, ce sont des Indiens, oui, bien sûr.
Dirigés par...
Il y a des ingénieurs de base comme Golo Pilz et il y avait 2-3 ingénieurs allemands. Et il y a eu des collaborations de d'autres ingénieurs ou de techniciens qui sont venus d'autres pays. Mais moi, j'y suis allé personnellement aussi. Et ensuite, les Indiens, il y a certains qui sont formés, d'autres, l'Inde produit aussi. Bah, aujourd'hui, c'est ces ingénieurs techniciens. Mais ce qu'il a fallu qu'au départ, on n'ait que des bénévoles. Donc, c'est des gens qui étaient prêts à travailler pour se former et d'offrir leur travail gratuitement.
Enfin, ils sont nourris sur place.
Logés, nourris sur place. Mais par contre, ils deviennent aujourd'hui spécialisés et aujourd'hui vont pouvoir avoir de vendre leurs compétences.
Apparemment, ces grandes paraboles immenses qui sont sur le projet, si j'ai bien entendu, au nombre de Indian One, c'est au nombre de 700.
Il y a 770 paraboles de 60 mètres carrés.
60 mètres carrés chacune,
c'est
colossal.
C'est colossal, oui.
Combien, je vais revenir à vous, Antoine Héroux, combien de temps, parce qu'on a vu là dans les images que c'était vraiment fabriqué avec de la glace, des miroirs, pardon, qui sont fabriqués en Allemagne, mais tout le reste...
Oui, bien sûr, il y a certaines technologies qui n'ont pas en Inde. Les miroirs, comme il disait, les miroirs qui ont une grande capacité de réflexion, comme ce qu'on a vu, qui reflète à 95%, sont faits par 3 usines dans le monde. Donc ces miroirs-là viennent d'Allemagne, mais par contre, ils viennent à l'état brut, je veux dire en grande surface, et ensuite ils sont complètement coupés, taillés en Inde. Et collé avec des résines spéciales qui viennent aussi de l'étranger. Bien sûr, la turbine est faite en Allemagne, turbine Siemens. Donc ces éléments-là sont bon, voilà, ces éléments de base sont faits à l'étranger. Mais l'assemblage est fait en Inde, oui.
Antoine Héron de ICDD, je le rappelle, hein, Initiative Citoyenne et Développement Durable. Vous sembliez, je dirais pas fasciné, mais très fortement intéressé par la viabilité de cette prouesse, j'allais dire technologique.
Ce qui est intéressant, c'est ce côté de démystification de la technique et de la science, qui n'appartient pas qu'à une élite, mais que n'importe qui peut s'approprier. Je sais que cette réalisation est connectée avec ce qu'on appelle l'université Barefoot College. En Inde, l'université des Vanupiers, qui s'est donné pour mission, ils y travaillent depuis 30 ou 40 ans, ils travaillent à faire en sorte que des gens qui sont analphabètes puissent comprendre parfaitement les principes physiques, les principes mécaniques et logiques qui permettent de construire des choses assez complexes. Si bien qu'ils forment ce qu'ils appellent des grands-mères, et dans les villages, souvent, les femmes ont un rôle à jouer. D'ailleurs, dans votre organisation aussi, les femmes ont un rôle important à jouer. Il est important, ils font venir des femmes d'Afrique pour leur enseigner toutes les techniques solaires, et les femmes repartent comme techniciennes solaires dans leur village. On les appelle ce sont des grands-mères analphabètes. Elles viennent en Inde.
En Inde, dans quelle partie de l'Inde, pardon, parce que là,
dans Rajasthan, c'est à côté.
C'est
connexe. Parce qu'il se trouve que le hasard a fait que hier, j'étais sur le site internet du Barefoot College et je voyais les mêmes panneaux solaires assemblés et je me dis, ils sont forcément en liaison l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé l'opportunité de ce grand projet pour développer cette technologie, mais avec tout le savoir-faire pédagogique qui fait que des analphabètes peuvent s'approprier beaucoup de choses. Et c'est très important. Moi, j'ai travaillé dans ma vie, j'ai démarré en Algérie dans des constructions de pipelines. On était frappé par l'intelligence des analphabètes. Parce que un psychologue me disait, ils sont analphabètes, donc ils ne peuvent rien faire. Ils savent ni lire, ni écrire, donc ni conduire, ni rien faire. Alors que j'avais un conducteur de pont roulant analphabète, qui était capable d'écraser une noisette, enfin, d'être extrêmement précis et conscient des mouvements qu'il avait à faire pour réussir ses manutentions, ce qui est assez pointu. Donc, il faut démystifier c'est aussi l'incapacité des gens à comprendre. N'importe qui peut comprendre, il suffit simplement de lui expliquer et de trouver la pédagogie appropriée. Et moi, ce qui me plaît dans tout ce projet, c'est que toute cette pédagogie appropriée fait partie de l'esprit global de cette aventure pionnière qui commence à faire des petits un peu partout. Et je suis ravi, et ça ne m'étonne pas.
C'est ce que disait François Bécher, et que justement, sur le modèle de India One, d'autres structures comme des hôpitaux, des écoles allaient implanter des réflecteurs d'énergie
tout
solaire.
Tout le monde est un peu, on est tous un peu surpris par la taille de ce projet India One. Et il faut bien savoir que depuis 20 ans, on fait du solaire. Et le plus grand succès de cette équipe n'est pas seulement le... Au début, on a commencé par faire de l'eau chaude. Donc, c'est les panneaux solaires classiques que tout le monde peut faire. Mettez un tuyau sur le toit et ça y est, vous avez de l'eau chaude. Mais on est passé à un autre stade où on a commencé les cuisines solaires, c'est-à-dire les paraboles beaucoup plus petites, avec des récepteurs aussi, mais qui montent l'eau à 250 degrés, à peu près à 10 bars, qui envoient cette vapeur dans les cuisines, dans des étuves à double paroi. Et donc toute la cuisine, toutes les cuisines sont faites dans nos...
Excellente grillade.
Oui, ça marche fort. Et là, ce que vous avez pu voir dans un des campus, on a 84 paraboles beaucoup plus petites et qui sont aujourd'hui la capacité de faire plus de 35 000 repas par jour.
C'est ça, c'est un grand centre universitaire.
Oui, tout à fait. Et donc, vous imaginez, vous cuisinez gratuitement pour 35 000 personnes.
Toujours le Rajasthan.
Oui, c'est toujours en Rajasthan. Mais ça a été copié. Vous savez, si vous allez à Delhi, dans la banlieue de Delhi, on a un centre de retraite aussi, qui est carrément totalement autonome. D'abord, ils cuisinent solaire. Ils ont un parc photovoltaïque qui est très important, qui leur fournit. Alors, eux, c'est du photovoltaïque. Bon, c'est un projet qui a coûté 3 millions d'euros. Oui. Tout en photovoltaïque. Donc, ils sont indépendants du point de vue énergie électrique, indépendants au niveau du solaire et ce qui alimente les cuisines, et bien sûr tout ce qui est eau chaude, des douches et autres. Donc ils ont un parc large d'énergie renouvelable et de...
Avec une indépendance quasi totale.
Ils ne sont pas reliés aux lignes extérieures.
C'est extraordinaire. Et alors le financement de tels projets?
Mais comme India One, on a été aidé par l'Allemagne. Et là, il vient de le dire, ils étaient à 3 millions, maintenant ils sont passés à 6 millions d'euros. Du gouvernement allemand, oui. 3 millions de l'Inde et le reste par l'université.
C'est quand même assez colossal comme projet.
Il y a beaucoup d'argent. Oui,
et le projet Barefoot là-bas, vous savez combien il avait coûté à peu près?
Non, je ne connais pas, mais ce qui me frappe, c'est que tous ces projets, il faut une vision, il faut beaucoup de temps, et peu à peu, on voit la puissance de choses extrêmement simples. À partir du moment où on se tient un peu comme dit le proverbe arabe, accroche ta charrue à une étoile et ton sillon sera droit. Et je pense que là, on s'est accroché à une étoile et on a bien tracé. Et au bout de 30 ans, on obtient des résultats fantastiques. Parce que la nature nous donne énormément de choses. Il y avait juste à la table ronde précédente, on parlait de l'économie bleue. L'économie bleue, c'est une économie qui est en symbiose avec la nature. Et la nature, quand on la regarde bien, elle fait beaucoup mieux que la bourse à 15% par an. Et elle est capable de vous donner tout et plus que vous en avez besoin. Simplement, il faut la comprendre, il faut la respecter, il faut travailler avec. Et elle vous donne tous les outils, mais faut-il savoir regarder. Donc avoir les yeux et avoir l'intelligence et la persévérance, parce qu'il faut de la patience, la nature est lente, mais elle vous le donnera. On a tout sous la main. Donc moi, j'ai pas d'angoisse pour l'avenir si on sait utiliser tout ce qu'on a à notre disposition gratuit.
Vous êtes d'accord avec ça?
Je ne peux pas vous le décrire, puisqu'on n'a pas d'image face à nous, mais je pourrais vous essayer. Vous représentez une courbe d'énergie, ou plutôt, ça serait plutôt dans l'espace. On a imaginé des cubes. Donc il y a un tout petit cube qui est l'énergie... d'uranium, l'énergie nucléaire qu'on utilise, un cube un peu plus gros qui est l'énergie charbon, un autre cube plus gros qui est l'énergie pétrole et gaz. Et tous ces cubes-là sont dans un cube qui ferait 1 mètre carré, qui est l'énergie solaire que le Soleil nous donne toute l'année sur la Terre. Donc malgré ces grosses énergies, on passe à côté d'une énergie gratuite qui est fabuleuse, propre, et on voit dans ce grand cube d'1 mètre cube, un tout petit cube de la besoin énergétique de la planète. Donc on pourrait mettre, j'en sais rien, il faudrait faire le calcul, peut-être 1000, 1500 planètes Terre dans ce cube. Donc la Terre nous alimente, je sais qu'elle donne à peu près 75 watts par mètre carré.
Bon, c'est vrai pour l'énergie, on peut le dire aussi pour la nourriture. Quand vous faites de la permaculture, quand vous travaillez en utilisant les techniques en la nature à ne rien rejeter et à tout organiser pour optimiser tout ce qui est donné, eh bien, vous avez une puissance qui vous permet de nourrir les 9 milliards sans aucun problème. On n'a aucun souci.
Nous revenons à l'interview de l'autre soir, François Abéché, où vous parliez de votre grand-mère en Moselle. Qui dans les années de votre enfance, des années 50, avant la grande industrialisation, cultivait son jardin. Et c'est vrai que la terre nourricière, c'est notre mère à tous.
Il y a un formidable aggiornamento à faire sur ce qu'on a appelé nos 30 glorieuses. Il faut réinventer notre modèle, complètement réinventer, en utilisant ce qui est bon dans ce qu'on a fait, mais en remettant à l'honneur tout ce qu'on a perdu et qu'on a négligé, qu'on a méprisé, qu'on a détruit et qu'il va falloir reconstruire, et c'est en train de se faire.
Voilà. Finalement, votre constat à tous les deux, et en voyant ce reportage et d'autres expériences que
chemin.
Vous vivez...
Il
non, mais vous
chemin.
Êtes optimiste, finalement. Si vous dites, en 30 ans, on a fait ça, ou 20 ans, dans les 30 années qui viennent...
Je suis optimiste, mais il faut du temps, de la persévérance... et de l'humilité. Et or, il n'est pas certain que nos dirigeants, nos experts, le plus obtus dans un changement de technologie, c'est celui qui était expert de la technologie précédente. Il ne veut rien savoir. Il considère que la seule vérité, c'est la sienne. Donc il faut apprendre l'humilité, la relativité des savoirs. C'est-à-dire qu'un expert, il est expert de son petit cube, comme on a dit tout à l'heure, il est expert de son petit domaine, et alors que la solution, elle est globale. Donc il va bien falloir que les gens s'ouvrent les esprits là-dessus.
Que dites-vous à cela, François ?
Entièrement d'accord, il y a une autre dimension qu'il va falloir qu'on développe, une dimension humaine. On a été trop longtemps tourné sur l'individualisme, et grâce à la science, la technologie dans nos pays, on pouvait se permettre ce luxe d'être individuel. D'ailleurs, on était perdant au change puisqu'on se coupait de toute relation avec les autres. Et donc, on pouvait développer ce qu'on a appelé à un moment la famille nucléaire, c'est-à-dire papa, maman, les enfants, et on pouvait vivre séparés des autres atomes. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui vivre 20 ans à Paris, puisque je suis à Paris, vivre 20 ans et ne pas connaître son voisin de palier. Il n'y a aucun problème à ça. Ce qui était absolument impossible il y a 30-40 ans, puisqu'on était obligé de coopérer. Et là, si on veut aujourd'hui voir un avenir comme on le rêve tous ici, il va falloir repartir vers le partage, vers l'ouverture, puisqu'on ne peut plus, la Terre ne peut plus fournir à chacun ce luxe d'être seul, individuel, individualiste, avec bien sûr la capacité d'avoir une voiture, deux voitures, trois télés, etc. Il va falloir qu'on réduise et il va falloir qu'on partage.
Antoine, vous voyez se développer, vous, à travers initiatives citoyennes et développement durable, ce sens du partage, de l'altruisme, en fait
Effectivement, ici, on est devant tout l'ensemble des solutions techniques qui sont proposées. Il y a un autre lieu d'exposition de tous ceux qui ont envie de coopérer. C'est à Place to Be, près de la gare du Nord, en ce moment.
Ah, vous voulez dire ici, pendant
oui,
la
COP
21.
Oui, pendant la COP 21, il y a quand même... Non, mais ça fait partie des grands enjeux qui ne sont pas présents ici.
Oui.
Et c'est dommage, parce qu'en fait, on sent bien que les deux lieux ont des choses à se dire. On sent bien que toutes ces technologies n'ont de sens que quand on les réunit et quand on fait en sorte qu'on connecte les besoins, les solutions et les gens et les projets dans une volonté commune. Et donc, j'ai bien aimé l'expression « il va bien falloir que ». On se parle et qu'on vive autrement que dans la famille nucléaire. Mais heureusement, c'est une formidable opportunité de sortir du piège dans lequel on voulait nous enfermer. Il y a Pierre Rabhi qui dit « mais toute la vie, on nous met en boîte ». On nous met en boîte. On rentre au bahut quand on va à l'école, et quand on rentre dans une usine, on est en boîte, et quand on va crever, on ira dans la boîte. Et donc, alors que tout dans l'homme est communication. Et l'humanité n'est qu'une histoire de communication réussie. Donc à nous de réussir la communication qu'on nous propose, il va falloir, et heureusement, qu'on parle à nos voisins.
Oui, tout à fait. J'appellerais ça relation. Je pense qu'on est On s'est emprisonné dans ce qu'on appelle des liens. Et je pense qu'il va falloir passer à la relation, passer du lien à la relation. Le lien emprisonne, nous rend esclaves, alors que la relation nous libère. Et au contraire, créer l'énergie de l'amour, l'énergie du partage. Et je crois que c'est de cela dont nous souffrons le plus et de nous rêvons le plus. C'est la beauté de la vie, je crois que c'est au niveau de la relation, du partage, de l'amour. Et vivre égoïstement, je ne pense pas qu'on recherche ça.
Cultivons la terre et cultivons nos relations humaines, en fait. C'est une question de culture à la base, dans tous les sens du terme.
Bien sûr.
Ici, au Grand Palais à Paris, Antoine Héron, président d'Initiative Citoyenne et Développement Durable, ICDD, que vous pouvez retrouver sur Internet, bien sûr, et François Bécher, directeur national d'Initiative Environnement, que vous pouvez aussi retrouver sur Debrama Koumaris, que vous pouvez retrouver sur Internet. Merci à vous deux.
Surtout le système, pas le climat.
Le système, pas le climat.
Surtout le système, pas le climat.
Marilyn, Marilyn, quel est le film, le scénario qu'il te faut tourner de nouveau? Et dans quel néant s'illumine le néon de ton nom, Marilyn? Avais-tu donc le cœur si large que tu préfères l'au-delà, l'eau si bleue de ta piscine? Oh Marilyn, Marilyn, le talent payé à prix d'or, la beauté en technicolor, et le soleil californien, non, tout cela ne sert à rien quand on voit l'envers du décor. Ça tourne mal, ça tourne court, nos rêves, nos joies, nos amours, l'espoir comme un vieux magazine a glissé de tes doigts, Marilyn. Nos vies ne sont qu'un bout d'essai. Pour qui, pourquoi, Dieu seul le sait. Toi qui connais la fin du film, dis Marilyn, est-ce un baiser? Dis Marilyn, est-ce un baiser?
Nous couper l'herbe sous le pied, posant la graine. Nous couper l'herbe sous le pied, il va laisser nous couper le blé. Nous couper l'herbe sous le pied, couper les navets. Il sème des ADN, récolte des problèmes avec les quittéreux et les bouseux. Qui se foutent des paysans, récolte qui cuit pompon.
Les députés votent un texte aux paysans de reproduire la plupart des semences industrielles. Seules 21 espèces pourront être replantées, mais en échange de royalties.
Les pastèques, les radis, les concombres, les melons, les brocolis, les choux-fleurs, les piments et les poivrons, les aubergines, les courgettes, les carottes et les tomates, les haricots, les petits pois, les laitues, les patates, les tagles, les tagles, les tagles.
nationale, quelque part, elles se sont servies dans le patrimoine de l'humanité pour créer leurs semences. Elles ont breveté, elles ont mis des certificats, et aujourd'hui, elles font taxer ça aux agriculteurs, alors que c'est les paysans, à la base, qui ont entretenu ce patrimoine.
Ils veulent couper l'herbe sous pied, pensant de la graine, va partout en semer.
Vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.
Microclimat.
Microclimat.
Du 7 au 12 décembre 2015 sur Fréquence Paris Pluriel.
Conférences, débats, reportages, interviews.
Le climat prend le micro.
Pour suivre les mobilisations autour du climat à Paris et partout ailleurs. Microclimat. Une semaine de lutte pour le climat sur FPP 106.3 FM et RFPP.net. Le contre-sommet sur les ondes.
S'ils vous amochent, vous les amochez. S'ils vous tuent, vous vous relevez.